VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Lydia Conakry, 14h à Kigali, bienvenue à notre journal. En France, le procès en appel de Pascal Simbi Kouanga, premier Rwandais condamné dans le pays pour sa participation au génocide de 1994 au Rwanda, a commencé ce mardi devant les assises de Bobigny, près de Paris, 2 ans après sa condamnation à 25 ans de prison en première instance. Pascal Simbi Kouanga, 56 ans, ex-officier de la garde présidentielle rwandaise, comparé en appel pour complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. Depuis son procès, le tout premier en France d'un Rwandais pour le génocide de 1994, un deuxième a eu lieu, celui de 2 anciens bourgmestres, Octavien Ngenzi et Tito Baraya. Ces derniers ont été condamnés à perpétuité en mai 2016 pour leur participation au génocide et ils ont eux aussi fait appel. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée a annoncé l'arrestation d'un chef rebelle des FDLR, la rébellion hutu-rwandaise, accusée de nombreuses exactions dans cette région. Le point avec Anastasie Toudiech.
L'un des porte-parole de l'armée, le major Guillaume Djike, a confirmé l'arrestation d'un haut officier des FDLR dans le Rutshuru et son transfèrement à Goma pour interrogatoire. Il n'a donné aucun détail sur les circonstances de cette arrestation. Le CEPADO, une ONG du Nord Kivu, précise que le colonel Abiyarimana Musebo Sofuni, commandant en charge des renseignements à l'état-major des rebelles rwandais, a été arrêté dimanche à Kiwanja. Mi-août, l'armée congolaise avait arrêté Patrick Sabimana dans le Nord Kivu. Il était responsable de la sécurité du chef rebelle hutu rwandais Sylvestre Mudakumura, toujours recherché par la justice internationale. Les FDLR opèrent essentiellement au Nord et au Sud Kivu. Depuis 2001, ils n'ont pas mené d'action militaire d'envergure au Rwanda et ils sont régulièrement accusés de commettre des atrocités contre les civils dans l'Est de la République démocratique du Congo.
En Afrique du Sud, le principal parti sud-africain d'opposition rejette la décision du gouvernement de retirer le pays de la Cour pénale internationale, la CPI. Le point avec Timothée Donangmaï.
L'Alliance démocratique a saisi la Cour constitutionnelle sud-africaine pour bloquer cette initiative, estimant que la lettre adressée à l'ONU annonçant le retrait de l'Afrique du Sud de la CPI viole la Constitution. Ce parti d'opposition a expliqué que le gouvernement est tenu d'obtenir au préalable une résolution votée au Parlement autorisant un tel retrait. Les autorités sud-africaines ont entamé leur démarche après le tollé provoqué par leur refus d'arrêter le président soudanais Omar el-Béchir, recherché par la CPI. Pour le gouvernement sud-africain, interpeller le dirigeant soudanais violerait les règles internationales en matière d'immunité. Dans une déclaration lundi, le secrétaire général de l'ONU a dit regretter la décision du gouvernement sud-africain. Rappelant l'important rôle de l'Afrique du Sud dans l'établissement du traité de Rome, Ban Ki-moon a dit espérer que ce pays reviendra sur sa décision avant qu'elle entre en vigueur.
Somalie, les islamistes Shebab ont mené une attaque au camion piégé contre une position de la force de l'Union africaine AMISOM, aujourd'hui à Beledweyne, dans le centre du pays. Pas de détails précis jusqu'à présent sur cette attaque qui visait un contingent de soldats djiboutiens. Mais les Shebab ont revendiqué l'opération via le site internet de leur station Radio Andalus. Selon des habitants de Beledweyne, l'attaque a fait des victimes. Au Kenya voisin, au moins 12 personnes tuées ce matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôtes à Mandera. La deuxième attaque en moins de mois dans cette ville du nord-est du Kenya, frontalière de la Somalie. Personne n'a revendiqué l'opération menée aujourd'hui, mais la précédente attaque, le 6 octobre, avait été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, 3 personnes ont trouvé la mort dans l'attaque d'un important poste régional de péage dans le village de Sanankoroba. Ses habitants vivent dans l'inquiétude en raison de plusieurs attaques armées, nous dit notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Situé à 35 km de Bamako, Sanankoroba est connu grâce à son village SOS d'enfants. Dans ce village se trouve un poste de péage dont la recette annuelle est de quelque 14 milliards de francs CFA selon les chiffres de l'autorité routière. Sanankoroba est sur la route de Sikasso, située au sud du pays. C'est le poste de péage de ce village qui a été attaqué ce lundi aux environs de 19h. Le bilan est de 3 morts, dont 2 agents de l'autorité routière, 1 planton et 4 blessés. Le seul gendarme qui était sur les lieux a fui selon les habitants. Le poste de péage de Sanankoroba est bien fréquenté car tous les camions en provenance des ports d'Abidjan, Lomé et Ghana passent par là. Ce qui fait que sa recette journalière est très élevée d'après une source de l'autorité routière. À Sanankoroba, cette attaque n'est point une surprise car il y a 2 semaines, les mêmes malfrats avaient attaqué la pharmacie officine de Sanankoroba. Pour le moment, aucun habitant interrogé n'a pu nous dire avec certitude s'il s'agit des bandits armés ou une attaque terroriste. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Niger, le gouvernement a supprimé les postes militaires installés dans les zones d'accueil des réfugiés maliens. Ils seront remplacés par des patrouilles mobiles, Nani Talani.
Selon un haut responsable du ministère nigérien de l'Intérieur, le gouvernement opte désormais pour des patrouilles militaires à la place des postes statiques dans 2 zones d'accueil des réfugiés maliens. Officiellement, il ne s'agit pas d'un retrait, mais de changement de mode opératoire. Cette nouvelle mesure concerne Tazalit et Intikane, 2 zones de la région de Tawa qui accueillent 22 000 sur les 60 000 réfugiés maliens au Niger. Ces 2 localités, d'après un travailleur humanitaire, sont des zones d'accueil où les réfugiés éparpillés sur plusieurs kilomètres viennent périodiquement pour recevoir leur ration alimentaire. Jeudi dernier, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, s'est rendu à Tazalit pour évaluer le dispositif sécuritaire. Il a notamment souligné des défaillances qui expliqueraient la célérité avec laquelle l'attaque du 7 octobre a été exécutée. 22 soldats nigériens ont été tués, probablement par des djihadistes.
En France, 2e jour de l'évacuation de la jungle de Calais, où étaient concentrés dans des conditions insalubres 6 à 8 000 immigrants souhaitant se rendre en Angleterre. Plus de 2 300 d'entre eux ont été relocalisés sans incident hier dans les centres d'accueil répartis sur tout le territoire français. Et le démantèlement de cet immense bidonville devrait être finalisé jeudi. L'auberge des migrants fournit de la nourriture et des vêtements et assiste aussi les migrants dans leur démarche depuis 2008. Les explications de son vice-président François Guénoc au micro de Claire Morin-Gibourg.
Alors cette première journée est très encadrée par des forces de police considérables avec aussi énormément de journalistes. C'est bien passé. C'est pas une surprise parce que une partie de la population du camp, de toute façon, voulait partir, voulait aller dans les centres d'accueil et d'orientation que le gouvernement a ouvert. Nous, de notre côté, les associations ont divers rôles sur le camp. On s'est contenté d'assurer notre travail habituel qui consiste à préparer 2500 repas chauds, à distribuer en particulier en ce moment des sacs. On n'a pas vraiment participé à cette évacuation dans la mesure où on n'est pas d'accord ni avec le fait que le gouvernement ne propose pas pour nous une offre suffisante, si vous voulez, pour une partie de la population, et aussi du fait du caractère précipité de cette évacuation.
Et que vont devenir les migrants qui refusent de quitter la jungle ?
Alors pour l'instant, il y a des gens qui hésitent et il y a des gens qui effectivement ne veulent pas partir. Alors ceux qui hésitent, c'est en particulier des personnes qui, on dit dans le jargon européen, sont dublinées, c'est-à-dire ont laissé leurs empreintes digitales et en général pas de leur plein gré, en général de force, en Italie, en Grèce, en Bulgarie, dans le pays d'arrivée en Europe. Et ces personnes-là sont supposées demander l'asile dans ces pays-là et donc risquent l'expulsion. M. Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a promis qu'elle pourrait quand même demander l'asile en France, mais pour l'instant, on a des éléments contradictoires là-dessus, on n'a pas l'assurance qu'ils pourront le faire. Et il reste une partie de la population du camp qui, eux, tiennent à tout prix à leur projet en Grande-Bretagne. Une partie est déjà partie ailleurs, notamment à Paris, 2 à 3 000 personnes environ. Ces personnes-là probablement chercheront à revenir peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. L'autre est encore sur le camp et va aussi peut-être partir ou peut-être monter dans les bus, mais avec un projet de revenir à terme, à court terme.
Et alors, selon vous, le gouvernement français annonce que le démantèlement doit être fini dans quelques jours, dans 4 jours exactement. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Oui, c'est possible. À partir de demain, peut-être, ou après-demain, des bulldozers vont arriver pour un petit peu commencer à pousser quelques cabanes et faire comprendre aux personnes que ça y est, c'est la fin du camp. On aura encore sans doute une ou deux journées où il y aura pas mal de candidats pour monter dans les bus pour les centres d'accueil. Comme je vous le disais, peut-être les autres vont se disperser et effectivement, en fin de semaine, il ne devrait plus y avoir personne dans le bidonville, sachant qu'il restera des personnes dans les 2 structures que sont le centre Jules Ferry avec la Maison des Femmes et le CAP, c'est-à-dire le camp de conteneurs, où le gouvernement met les mineurs isolés dont pour l'instant, il ne sait pas tout à fait vraiment quoi faire.
François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des migrants à Calais en France. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.